bonjour aux aficionados de Cantara répartis dans toute la Méditerranée. Pierre Marie est cette semaine au micro depuis la Corse en duo avec la grande Mayada Sili à Tunis. Bonjour Mayada.
Bonjour Pierre, bonjour chers auditeurs, bonjour la Méditerranée. Oui, c'est un plaisir de te retrouver Pierre pour ce nouveau numéro de Cantara.
En l'absence de Thomas qu'on va retrouver la semaine prochaine. Alors Cantara cette semaine fait encore le tour d'une actualité méditerranéenne qui propose de la politique, de l'économie, des questions environnementales et le tout rythmé par les choix musicaux de la Dream Team de Cantara. Mayada les titres.
Alors tout à fait, cette semaine, Cantara commence exceptionnellement avec la Grèce. Et oui, les élections en Grèce et la victoire de Syriza pèsent directement sur la campagne électorale permanente que sera 2015 en Espagne. Imen Wenzar nous en dira plus dans quelques instants. En Corse, il sera question de la délinquance. Le début de l'année est traditionnellement l'époque des bilans et notamment celui de la délinquance. Dinar Abdelmejid pose la question des relations entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite après la mort du roi Abdallah ben Abdelaziz. Elle nous propose un entretien avec l'ex-ambassadeur de l'Égypte en Arabie Saoudite. En Algérie, la baisse des prix du pétrole inquiète malgré les déclarations du gouvernement pour rassurer les Algériens sur le niveau de vie. Linda Bouadma nous propose un éclairage sur cette question avec un expert pétrolier. En Tunisie, il sera question de l'agriculture familiale où les femmes jouent le rôle le plus important malgré les difficultés qu'elles rencontrent. Et puis finalement, Nadira Belkhotout nous fera découvrir une zone humide. Voilà donc le sommaire de cette émission.
Et Cantara, c'est Radio Le Caire, Radio Algérienne chaîne 3, la chaîne Inter au Maroc, Radio Exterior d'Espagne, RTCI en Tunisie, Bleu RCFM en Corse et citons aussi Radio Liban dans le partenariat de Cantara. Commençons notre tour de la Méditerranée par l'Espagne. Les élections grecques et la victoire de l'extrême gauche de Syriza bousculent l'équilibre politique européen. En Espagne, par exemple, l'année électorale sera marquée par quatre grands rendez-vous à un moment où le système bipartite a du plomb dans l'aile. Le changement radical en Grèce pèse directement sur la campagne électorale permanente qui va durer toute l'année. L'Espagne n'est pas la Grèce, c'est vrai, mais beaucoup dans la péninsule ibérique se mirent dans les eaux de la mer Égée. Imen Wenzar.
La nuit électorale grecque a eu ses prolongements en Espagne et la propre campagne électorale pour les prochaines élections semble avoir été éperonnée par le résultat. Syriza, 149 sièges, à deux seulement de la majorité absolue. Dans la dernière ligne droite de la campagne grecque, les partis de gauche, Izquierda Unida et Podemos, se sont plus ou moins discrètement disputés leur proximité avec Syriza. Pablo Iglesias, leader de Podemos, s'est même essayé aux Grecs.
Qui a l'agi, estin Elada, onomasete Syriza.
Il a multiplié les photos, les apparitions avec Tsipras, ce dernier, et les siens toutefois à tout moment tenu à rappeler leur longue coopération avec Izquierda Unida. L'homme qui monte dans cette organisation répondait hier aux médias espagnols directement depuis Athènes.
Hemos ganado la izquierda, hemos ganado los pueblos de Europa, porque no solo se disputaba el gobierno de Grecia, sino también un orden social.
Nous avons gagné, la gauche a gagné, les peuples d'Europe ont gagné, parce que ce qui était en jeu, ce n'est pas seulement le gouvernement de la Grèce, mais surtout un ordre social nouveau, et c'est un point d'inflexion pour la régression sociale fondée sur l'austérité. Et depuis Madrid, le secrétaire général d'Izquierda Unida, Cayo Lara.
Sentimos hoy también como nuestra la victoria de Syriza en Grecia, porque nuestro apoyo a esta fuerza política viene de lejos.
Nous ressentons comme nôtre la victoire de Syriza en Grèce parce que notre soutien à cette force politique vient de loin, dit Cayo Lara. Les porte-paroles du Parti socialiste ouvrier espagnol ont été assaillis de questions à propos de la déconfiture du PASOK, théoriquement parti frère. Tous ont tenu à préciser que les deux partis, et au-delà les deux pays, n'avaient rien à voir. Pedro Sánchez, secrétaire du Parti socialiste.
Nosotros vamos a respetar, como no podía ser de otra manera, el veredicto de las urnas en Grecia. Pero los políticos españoles, y en particular el señor Rajoy, lo que no puede hacer es importar la política griega a la política española. Afortunadamente para los españoles, España no es Grecia.
Nous, dit Sánchez, nous allons respecter, il ne peut pas en être autrement, le verdict des urnes en Grèce. Mais les hommes politiques espagnols, et en particulier M. Rajoy, ne devraient pas extrapoler la politique grecque à l'Espagne. Fort heureusement pour les Espagnols, l'Espagne n'est pas la Grèce. Des élections grecques, tout le monde a opiné. Le Parti populaire l'a fait notamment par la voix de son vice-secrétaire Esteban González Ponce au lendemain du scrutin. Et à la grande surprise des journalistes, González Ponce cite un tweet d'Arnaldo Otegi, ex-leader de l'organisation basque interdite, Batasuna, actuellement en prison, dans lequel ce dernier se réjouit de la victoire de Syriza.
Déjenme que les diga claramente. Si Arnaldo Otegi está feliz de que gane Syriza, no podemos estarlo los españoles. Si Arnaldo Otegi le viene bien que gane Syriza, pues mire, a los españoles seguro que no nos puede venir bien. Ha ganado una fuerza que le viene bien a Arnaldo Otegi que haya ganado. Pues eso para la democracia tiene que ser como mínimo preocupante.
Laissez-moi vous dire clairement, dit Ponce, si Arnaldo Otegi est heureux que Syriza soit vainqueur, les Espagnols, nous ne pouvons pas l'être. S'il est de la convenance d'Arnaldo Otegi que Syriza gagne, aux Espagnols, il est sûr que cela ne peut pas nous convenir. Qu'une force dont la victoire convient à Arnaldo Otegi est gagnée pour la démocratie, c'est au minimum préoccupant. Et González Ponce de rappeler à Tsipras les engagements de la Grèce et de l'inviter à se comporter comme un parti responsable parce que, je cite, « lorsqu'on est membre d'un club, on doit se conformer aux règles de ce club ».
Parce que quand tu es dans un club, tu dois cumplir les normes de ce club.
La campagne pour les différents rendez-vous électoraux espagnols qui jalonnent 2015 a commencé. Elle sera largement marquée par ce 25 janvier.
Voilà donc le premier sujet de Iman. L'Europe et le monde entier sont en effervescence après cette grande bousculade en Grèce.
C'est vrai que c'est une grande effervescence et ce qui est paradoxal peut-être, c'est que cette victoire justement de l'extrême gauche qui inquiète justement le reste de l'Europe, elle est en quelque sorte aussi peut-être la conséquence de la politique européenne qui a toujours été orientée vers le libéralisme en quelque sorte, non ?
Justement, ça inquiète les responsables de l'Europe actuelle, mais ça en excite d'autres. Il y en a beaucoup dans les pays européens qui se prennent pour le leader grec et nouveau Premier ministre Alexis Tsipras. C'est le cas de Mélenchon en France, par exemple, mais c'est pareil en Italie, en Irlande. Enfin, nous, dans Kantara, on va attendre pour savoir si les élections grecques étaient un pétard mouillé ou si c'est une vraie déflagration. La musique espagnole.
La musique espagnole avec Paco Ibáñez qui chante ici un poème de Federico García Lorca, El lagarto está llorando, le lézard est en train de pleurer, un poème qui fait partie d'une série destinée par Lorca aux enfants.
El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantaritos blancos han perdido sin querer. El lagarto y la lagarta han perdido sin querer su anillo de desposado. Ay,
su anillito de plomo. Ay, su anillito plomado. Ay, ay. Miradlos qué viejos son, el lagarto y la lagarta. Miradlos qué viejos son. Qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, cómo lloran los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, ay, ay, cómo están llorando.
Deuxième étape de ce tour de Méditerranée de Cantara, Mayada.
Deuxième étape avec la Corse. Le début de l'année est traditionnellement l'époque des bilans et notamment celui de la délinquance. Difficile cependant d'avoir des chiffres précis car l'insécurité fait partie d'un chapitre hautement politique qui aiguise bien sûr polémiques et débats. En novembre 2014 par exemple, l'Observatoire français de la délinquance constatait une baisse des crimes et délits mais adoptait aussi de nouvelles méthodes de calcul statistique. Une méthode employée également en Corse qui est hélas la région de France avec Marseille où les homicides sont les plus nombreux. Pierre Louis Alessandri.
En 30 ans, la Corse a totalisé plus de 300 homicides et pour essayer probablement d'atténuer l'impact des chiffres, les autorités publiques inventent des méthodes qui tendent à diluer les pourcentages, voire les chiffres. C'est ainsi qu'en Corse, on sépare les règlements de compte des homicides que l'on pourrait qualifier, je ne sais pas, de classiques, encore qu'en la matière, la définition est difficile. Cette année, en tout cas, les attentats sont en baisse très nette dans l'île. Elle a connu des records jusqu'à plusieurs centaines, alors que 12 seulement en 2014. L'organisation clandestine FLNC avait, il est vrai, annoncé cette année le dépôt des armes. Les règlements de compte ont aussi diminué, passant de 18 en 2013 à 14 en 2014, ce qui fait toujours trop. Une baisse qu'a tenu à souligner le procureur général de la Cour d'appel de Bastia, Franck Rastoul, à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée.
Il y a effectivement de bonnes indications, une baisse significative des homicides, moins 23% des attentats, donc ça c'est tout à fait positif. C'est, je pense, le travail des services de police et de gendarmerie, et puis évidemment de la justice, mais après il faut aussi dire les choses, il y a encore bien sûr beaucoup d'objectifs à atteindre, et je pense notamment au fait qu'on puisse avoir, par exemple, dans une région comme Sartène, un taux de règlement de compte qui est extrêmement important. Je veux juste dire là aussi que cette difficulté d'élucidation sur les règlements de compte, ce n'est pas une spécificité corse. C'est une criminalité qui, évidemment, est structurée et qui, donc, du point de vue de l'enquête, est plus difficile. Mais ça ne veut pas dire, au contraire, qu'on baisse les bras et on va continuer à mettre l'accent sur cette nécessité d'avancer.
Mais si les crimes tendent à baisser, l'insécurité a tendance à augmenter avec notamment les risques d'attentats, mais aussi une délinquance de proximité qui touche au bien des personnes. Il y a en France une moyenne de 300 voitures qui sont volées chaque jour. Autre volet de la délinquance, celle que l'on nomme en col blanc et qui concerne les délits financiers. En Corse, par exemple, plus de 6 millions d'avoirs financiers criminels ont été saisis, qu'ils soient d'ordre pénal ou de délits fiscaux. Un pôle spécialisé a d'ailleurs été mis en place pour lutter contre cette criminalité.
A été maintenu à Bastia, le pôle économique et financier, qui est aujourd'hui le seul pôle économique financier maintenu sur le territoire national. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on considère que la lutte contre la délinquance économique et financière est une priorité en Corse, et que donc on a là aussi un outil spécifique. Il est même victime de son succès, puisqu'aujourd'hui on a un portefeuille, si je puis utiliser cette expression, qui est trop importante, c'est-à-dire qu'il y a trop de dossiers et que l'un des objectifs justement qui est suivi par le procureur, c'est de limiter le nombre de ces procédures, de les rajeunir, peut-être de les alourdir aussi en termes de complexité pour que ce pôle économique et financier soit encore plus performant qu'il ne l'est aujourd'hui. La réponse en matière économique et financière, qui est la toile de fond qui explique nombre de faits d'assassinats, d'extorsions, de règlements de comptes. Donc il faut évidemment travailler sur les phénomènes en quelque sorte qui émergent, ce sont les assassinats, les rackets et autres, mais travailler aussi sur la cause profonde. Et la cause profonde, c'est la lutte contre l'affairisme.
Enfin, les derniers attentats ont amené le gouvernement français à prendre des mesures particulières et demander à la justice des réponses fermes, notamment en ce qui concerne l'apologie du crime ou les actes racistes. Des mesures et des moyens ont été aussi annoncés par le ministre de l'Éducation nationale. Comment la justice peut répondre face à des réactions d'élèves dans les établissements scolaires? La réponse de Franck Rastoul.
Après les événements que nous venons de subir, il faut une réponse judiciaire adaptée, c'est-à-dire une réaction judiciaire, mais ça n'est pas une réaction disproportionnée, ça n'est pas une réaction mécanique. Il s'agit simplement de traiter tous les comportements qui, dans le fil des faits terroristes qui viennent de frapper notre pays, sont inadmissibles parce qu'ils touchent aux valeurs essentielles de notre société. Nous ne sommes pas dans un effet mécanique, dans un effet systématique. Il est question simplement d'avoir une réponse ferme, une répression adaptée par rapport à des comportements, par rapport à des faits qui sont intolérables.
Alors la Corse, on y reste. Pierre, on va écouter un morceau à présent.
Oui, alors Demis Roussos est décédé il y a une semaine à l'hôpital d'Athènes, puisqu'on parlait de la Grèce tout à l'heure. Il est né en 1946 en Égypte de parents grecs. Il s'appelle Artemios Roussos, ou il s'appelait Artemios Roussos. Il s'est fait connaître avec les Aphrodite Childs dans les années 60. La chanson Rain and Tears, composée par son partenaire Vangelis, est devenue un tube mondial en 1968. Au début des années 70, il poursuit sa carrière en solo. L'année 73 sera celle de sa consécration avec l'album Forever and Ever. Tout au long de sa carrière, Demis Roussos aura vendu 60 millions d'albums. Demis Roussos, et à partir de maintenant, il sera très longtemps 5 o'clock.
It's 5 o'clock and I walk through the empty streets. Thoughts fill my head. But then still, no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by.
Hommage donc à Demis Roussos dans Kantara et nous passons à l'Égypte.
Après le décès du roi Abdallah en Arabie Saoudite, l'Égypte se pose des questions sur la reconduction des relations entre les deux pays, relations de coopération, soutien financier, position par rapport au contexte géopolitique du monde arabo-musulman. Tout cela va-t-il changer ou bien s'inscrire dans la continuité? Réponse de l'ex-ambassadeur Hussein Haridi, interrogé par Dina Abdelmeghid.
Moi, je ne pense pas qu'il y aurait des changements dans la politique, dans les relations égypto-saoudiennes. Au contraire, je crois que les défis et les menaces qui pèsent sur le Moyen-Orient et le monde arabe vont pousser ces relations vers des nouveaux horizons. Et je crois que le roi Salman Ben Abdelaziz a été toujours un grand supporter pour des relations, excellentes relations entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et certainement, le prochain sommet arabe au Caire, le mars prochain, va démontrer la solidarité égypto-saoudienne. Le changement dans la durée, c'est un tournant historique dans l'histoire du royaume saoudien. Et je crois que maintenant, l'Arabie Saoudite est prête à à permettre, à inviter les nouvelles générations dans la famille royale de commencer à exercer le pouvoir d'une façon graduelle et d'une façon consensuelle. Ainsi, j'aimerais souligner l'aspect consensuel de ce choix, madame.
Y aura-t-il toujours des relations économiques avec l'Arabie Saoudite ?
Certainement, de point de vue relations économiques, investissements saoudiens dans l'économie égyptienne, certainement, je m'attends à une forte participation de l'Arabie Saoudite, tant sur le plan gouvernemental que sur le plan des investisseurs et des fonds souverains ou le fonds souverain saoudien. Je m'attends que leur participation lors du prochain sommet économique à Sharm el Sheikh, toujours mars prochain, va être vraiment une participation forte. Et l'Arabie Saoudite et l'Égypte sont deux grandes puissances arabes et leur solidarité, leur coopération, certainement, et leur vision commune de l'avenir du monde arabe, certainement, est très important, et ainsi que nécessaire dans le stade actuel dont passe le monde arabe.
Voilà donc le sujet égyptien. Est-ce qu'en Tunisie, les questions se posent de la même façon par rapport à l'Arabie Saoudite ?
Alors, c'est vrai que les relations entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite, c'est pas aussi privilégié qu'elles le sont entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, mais c'est aussi des relations qui sont très étroites. Et je pense que c'est vrai que cette question, elle s'est posée pratiquement dans toute la région. Qu'est-ce que la mort du roi Abdallah va changer, justement? Pas grand-chose, hein, je pense, hein, et je suis de l'avis, justement, de l'ex-ambassadeur qui vient de s'exprimer au micro de Dina Abdelmajid. Même si, bon, c'est vrai, l'Arabie Saoudite, elle a toujours soutenu et appuyer l'Égypte politiquement et économiquement, visiblement, il y aura une continuité, mais même pas uniquement par rapport à l'Égypte, je pense que ça sera par rapport à toute la région. Disons que dans la politique des affaires étrangères en Arabie Saoudite, il y a des standards. C'est vrai que le nouveau roi, il est réputé pour être conservateur et très prudent en ce qui concerne les réformes sociales, culturelles.
Le régime lui-même est profondément conservateur, y compris dans sa manière de pratiquer l'islam, non ?
Tout à fait. Le régime, je dirais entre guillemets antidémocrate même, donc conservateur. Mais je pense que le rôle que joue l'Arabie Saoudite, elle est stratégique. Et je pense, à mon avis, en tout cas mon très modeste avis, que l'Arabie Saoudite a et doit jouer un rôle très important dans la lutte contre le radicalisme religieux dans la région, parce qu'elle a vraiment un rôle stratégique à jouer. C'est ce qu'on souhaite en tout cas.
Quelle est la chanson choisie par Dina Abdelmajid ?
Alors Dina Abdelmajid nous propose cette semaine un extrait d'une opérette. L'opérette a pour titre « Demain, un jour nouveau ». Elle est interprétée par un nombre de chanteurs arabes. On l'écoute.
Quand Kantara sur Radio Le Caire, Radio Algérienne chaîne 3, la chaîne Inter au Maroc, Radio Extérieure d'Espagne, RTCI en Tunisie, Bleu RCFM en Corse et Radio Liban. Nous allons en Algérie, Mayada.
En Algérie, la baisse des prix du pétrole inquiète, même si le gouvernement multiplie les déclarations pour rassurer les Algériens sur leur niveau de vie. Pas d'augmentation des prix des produits soutenus par l'État, pas question d'arrêter les projets en cours, notamment de construction de logements, ni suspendre le recrutement dans le secteur public. Bref, pas d'austérité, mais rationalisation des dépenses. Le gouvernement promet une concertation avec les acteurs économiques pour trouver ensemble les moyens de sortir l'économie algérienne de sa dépendance des hydrocarbures. Linda Bouadma nous propose un éclairage sur ces questions avec un expert pétrolier, spécialiste en prospective, Mourad Preur.
L'Algérie vit ce qu'on appelle un syndrome qu'on appelle le Dutch disease, le syndrome hollandais. À savoir que la prospérité pétrolière a donné une impulsion aux importations qui ont concurrencé la production nationale. Et donc, en fait, les exportations pétrolières inhibent la production nationale. Moi, je prône le patriotisme économique, depuis toujours. Nous voyons que des pays libéraux, connus, comme les États-Unis, on ne peut pas être plus libéral que les États-Unis, la France, l'Allemagne, tous les pays pratiquent le patriotisme économique. Et le patriotisme économique, c'est d'abord la préférence nationale pour ce qui est de la production. Donc le gouvernement est enjoint par cette crise de revenir vers un patriotisme économique, d'engager un débat national là-dessus. D'accord.
Mais dans ces moments de crise, justement, est-ce que ce n'est pas cette crise-là qui va pousser à réorienter les projets du gouvernement ?
Oui, la crise doit pousser le gouvernement à engager une dynamique pour sortir du Dutch disease, de ce syndrome hollandais, en encourageant la production nationale, en mettant sous contrainte les importations. On importe quand les produits nationaux ne sont pas concurrentiels au plan de la qualité, au plan du prix, etc., ou ne sont pas présents du tout.
Est-ce que le gouvernement a les moyens de faire pression sur les importateurs, justement ?
C'est la grande interrogation. Parce que les importateurs, c'est en Algérie, c'est une espèce de nébuleuse qui a un pouvoir économique et qui a un pouvoir politique, qui peut empêcher les décisions de se concrétiser.
Le chef du gouvernement, dans sa dernière sortie médiatique, avait parlé d'élaborer une stratégie, un projet pour l'économie productive et cette économie qui doit s'ouvrir au marché africain. Quelle valeur on peut donner à cette déclaration ?
L'Algérie a pris beaucoup de retard. Je vois le Maroc qui est extrêmement offensif et l'Algérie, faute de s'occuper de l'Afrique, va subir les désagréments de l'instabilité sur ses frontières sud et est. Pour mille raisons, elle est obligée de s'intéresser à l'Afrique. Ce n'est pas une approche bureaucratique. Il faut encourager les chefs d'entreprise à aller investir en Afrique. Il faut leur prêter de l'argent pour qu'ils le fassent aussi. Donc il faut qu'il y ait, un volontarisme de l'État.
Vous le sentez ?
Je sens des frémissements, pour ne pas faire langue de bois. Oui. Je n'ai pas l'impression qu'on a pris conscience dans les détails, dans l'opérationnalité de la chose.
Dernière question, puisque vous faites dans la prospective, votre cabinet fait dans la prospective, quelles sont vos prévisions par rapport au prix du pétrole ? On parle de $50 encore pour toute l'année 2015 et autour de $70 d'ici 2019. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Mourad Preur ?
Les prix du pétrole devraient, à mon avis, fluctuer autour d'un pivot de $55 le baril. Le premier semestre. Le deuxième semestre, je pense que les pétroles difficiles vont souffrir du prix actuel. Beaucoup de sociétés sont en train de ralentir leurs investissements. Je pense que le deuxième semestre, les prix vont fluctuer autour d'un pivot légèrement supérieur de $60-$65 le baril. L'année 2016 sera une année de convalescence pour les prix du pétrole, hein. Mais je pense qu'après, l'industrie du pétrole va commencer à ressentir les conséquences de la baisse des investissements aujourd'hui. Et nous retrouverons un cycle haussier robuste à partir de 2017-2018.
Voilà. Quand vous dites robuste, c'est-à-dire on reviendra aux 120 dollars?
Je pense que les prix du pétrole, pour vous donner mon avis, sur le long terme, sont orientés, ont une orientation haussière, parce qu'ils sont portés par une anticipation d'épuisement des réserves et de croissance exponentielle de la demande. Et le niveau de 100 dollars, je le dis, je le maintiens, est structurel. Ils retrouveront les 100 dollars.
Intéressant, hein, on n'a pas fini de parler de la chute des prix du pétrole et des difficultés économiques, voire même politiques, que cela peut provoquer chez les pays producteurs, mais également des bienfaits dans les pays qui ne sont eux que consommateurs de pétrole. Enfin, tout ça aussi va évoluer rapidement d'ici la fin du siècle avec l'épuisement des ressources, non ?
Tout à fait. Disons que le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres, mais bon, c'est vrai qu'on espère que c'est une crise passagère. Mais je pense que ce qui inquiète surtout les Algériens, c'est le scénario des années 80, où la chute des prix du pétrole a généré des émeutes qui ont conduit à des turbulences politiques et sociales. D'autant plus que selon la presse algérienne, en tout cas, l'Algérie n'a pas vraiment profité de la hausse des prix pour diversifier l'économie, pour sortir, comme l'a dit en tout cas Linda Bouadma, de la dépendance des hydrocarbures, pardon, et réduire justement ses importations. Mais bon, on espère en tout cas que ça va évoluer dans le bon sens pour l'Algérie.
Attendons l'époque quand la révolution énergétique fera le bonheur de tout le monde en même temps.
Oui.
Linda Bouadma a choisi une chanson de Neila Belbel. C'est une chanteuse qui partage son temps entre la France et l'Algérie. Sa chanson « Le cœur serré » est pleine de nostalgie. Neila Belbel chante son pays perdu, un pays qu'elle voudrait bien retrouver.
J'aimerais tant te dire à quel point tu me manques. J'aimerais tant te dire à quel point je t'aime. Un jour je suis parti vers d'autres eaux.
L'Algérie à la Tunisie, au Proche-Orient comme en Afrique du Nord, l'agriculture familiale domine dans les régions où se concentrent les populations les plus pauvres. La croissance démographique et la fragmentation progressive des surfaces cultivées, qui en est la conséquence, diminuent la taille des exploitations familiales. Selon la FAO, près de 84% des agriculteurs de cette zone travaillent dans des exploitations familiales. Or, ils ne couvrent que 25% des surfaces cultivées. La raison, ce sont essentiellement des femmes qui cultivent la terre. Elles n'ont pas accès au foncier, au crédit ou à la technologie. Maya Dassili a enquêté.
L'agriculture familiale est le noyau dur de l'agriculture en Tunisie. Mais comme dans tous les pays de la région, ce modèle d'exploitation qui garantit des revenus pour une importante population rurale pauvre subit aussi plusieurs impacts négatifs liés aux réformes économiques inadaptées, aux questions démographiques telles que l'exode rural, mais aussi aux pressions engendrées par les changements climatiques. En Tunisie, c'est la femme rurale qui joue un rôle prédominant dans l'agriculture familiale. Benoît Hormans est le représentant représentant de la FAO en Tunisie, le coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique du Nord.
La plus grande partie de la production agricole vient des exploitations familiales en Tunisie, comme dans la plupart des autres pays. Et dans ce domaine, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la femme est probablement une des la plus grosse contributrice à la production agricole dans ces zones aussi. À la fois parce que souvent les hommes migrent vers la côte, dans l'industrie, ailleurs, mais même à l'étranger. Elles ont la charge de famille, c'est elles qui s'occupent aussi de l'éducation des enfants, de la santé des enfants. Donc c'est elles qui sont directement impliquées dans la production pour générer des revenus au niveau de la famille.
Aïcha Meliti a 63 ans. Elle est de la ville de Kairouan, au centre de la Tunisie. Elle travaille dans l'agriculture depuis son plus jeune âge. Nous l'avons rencontrée dans une foire de produits agricole.
Je participe souvent aux foires pour la,
Je veux faire connaître ce produit aux générations futures parce que je crains que ce produit va disparaître. Ces produits sont ceux de nos ancêtres, de notre cuisine tunisienne traditionnelle. Ce travail est mon quotidien. Je suis née dans une famille qui transforme les trésors de la terre en produits alimentaires et j'aime beaucoup ce que je fais. On vit comme ça de notre propre terre et on en est fier. Dans notre famille, on n'achète presque rien. Aucun produit industriel, ni la confiture, ni les gâteaux, ni les céréales. Et c'est comme ça depuis des générations. Nous avons hérité ça de mère en fille.
C'est notre vie quotidienne. On vit comme ça. Ah, j'adore. J'adore la terre, j'adore l'agriculture, j'adore tout ce qui est verdure, j'adore tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est à nos parents, à nos ancêtres. Je suis très conservatrice.
Aïcha Meliti est très attachée à la terre, comme toutes les femmes agricultrices. Selon le ministère tunisien de l'Agriculture, la femme rurale représente 35% de l'ensemble de la population féminine en Tunisie et 58% de la main-d'œuvre rurale. Elle est un maillon essentiel de l'économie familiale et contribue à la réalisation de la sécurité alimentaire en Tunisie. Mais les femmes agricultrices n'ont pas toutes les mêmes facilités. La plupart travaillent dans des conditions difficiles et leur rôle demeure marginalisé. Abdelmajid Azhar est le président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche. Il parle des difficultés que rencontrent les femmes agricultrices.
Pas de couverture sociale. En plus, il n'y a pas ni des hôpitaux, ni de lycées. C'est ce qui explique aussi l'abondance scolaire de la plupart des enfants et surtout dans le sexe féminin. La femme n'a pas d'accès au financement des projets parce qu'elle n'a pas aussi de contrats de propriété.
Les femmes rurales constituent une force de travail dans l'agriculture équivalente à 80% et pourtant à peine 14% des femmes déclarent être propriétaires des terres qu'elles exploitent. Ces résultats issus d'une étude réalisée dans les années 90 confirment que la propriété de la terre est une prérogative presque exclusivement masculine. Tout ceci est en retrait par rapport au droit moderne qui prescrit l'égalité juridique des sexes. Pour Abdelmajid Azhar, le président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, il est important aujourd'hui de promouvoir le rôle de la femme rurale dans la promotion de l'agriculture familiale en mettant en place des mesures et programmes à même de promouvoir leur statut et de favoriser leur autonomisation économique et sociale en améliorant leur productivité et leur accès au marché. Un ensemble de programmes sont élaborés par les autorités tunisiennes à suivre.
Intéressant, Mayada, ton sujet sur l'agriculture. Bon, alors, la question qui se pose, vu ici de l'Occident, sont-ils en retard sur le plan agricole ou sont-ils en avance finalement? Est-ce que cette façon de pratiquer l'agriculture de proximité ne représente-t-elle pas l'avenir? La question est posée par beaucoup de chercheurs, hein, dont certains ont été invités dans Kantara.
En avance, non, pas tout à fait. Et c'est là qu'intervient justement le rôle de l'État, mais aussi des associations pour justement une meilleure compétitivité et pour que ces femmes d'abord soient autonomes, parce que comme on l'a dit dans ce reportage, elles ne le sont pas tout à fait, même si elles font le travail presque de façon individuelle. Donc c'est un travail qui est, je dirais, presque exclusivement féminin, mais elles ne sont pas propriétaires des terres. Et du coup, elles ne peuvent pas avoir accès au crédit pour financer pour acheter du matériel. Donc c'est vrai que côté moyen, ça n'avance pas, mais c'est quand comme tu dis, Pierre, je pense l'avenir de l'agriculture en Tunisie, parce que 80% ou peut-être plus de l'agriculture en Tunisie vient justement de l'agriculture familiale. Et dans l'agriculture familiale, c'est la femme rurale qui joue un rôle très important, et c'est là qu'il faut intervenir pour qu'elle soit vraiment totalement autonome.
Je faisais référence au travail, aux réflexions de Pierre Rabhi qu'on a eu dans le Cantara déjà, et qui défend justement l'agriculture de proximité, l'éco-agriculture. Donc on y reviendra certainement dans le Cantara. Quelle chanson as-tu choisi, Mayada ?
Alors, puisque justement nous parlons de la femme rurale, on a choisi une chanteuse qui s'est forgée une place de marque dans la chanson arabe et tunisienne, en optant justement pour le chant des femmes rurales, pour la chanson bédouine. Elle s'appelle Zohra Lajnef et elle nous chante Rodeneva.
Dernière étape de ce Cantara, et nous allons au Maroc où notre amie Nadira Belkhoutout a vu des poissons en plein Sahara. Alors, je ne sais pas si elle a eu des hallucinations. On t'écoute, Mayada.
Au Maroc, Nadira Belkhoutout a exploré avec un groupe de chercheurs la zone humide Imlili. Elle a vu de ses propres yeux des poissons dans des poches d'eau salée en plein désert. Elle nous fait partager son émerveillement.
Du poisson et une vie marine dans le désert, ça frôle surnaturel. En 2009, des professeurs du groupe de recherche pour la protection des oiseaux voulaient pousser sa prospection des zones humides dans le sud à la recherche d'oiseaux migrateurs. Arrivé à Imlili en plein désert, ils sont déçus. Aucune trace d'oiseaux migrateurs. Mais par contre, ils sont saisis en voyant un spectacle irréel. Une centaine de poches d'eau permanentes où vit un poisson appelé tilapia. Nous allons explorer cette zone humide dont l'origine remonte très loin dans l'ère géologique avec le professeur Abdeljabbar Kninba de l'Institut scientifique de Rabat.
Elle est connue de la population locale depuis toujours. Elle a été visitée par un naturaliste espagnol durant les années 1950, mais sa valeur scientifique n'a été découverte qu'en 2009, quand nous avons prospecté la Sahara et avons trouvé cette espèce qui a été citée pour la première fois au Maroc et dont l'aire de répartition se limitait à l'époque au fleuve Sénégal en Afrique de l'Ouest. Et quelle est l'origine de cette eau, puisque le site se trouve à une quinzaine de kilomètres de l'océan Atlantique et qu'il n'y a pas de communication directe. Et les géologues qui ont participé à notre projet ont pu expliquer l'origine de l'eau. Et bien, donc déjà, il y a des failles dans la région. Quand il y a des crues dans la région qui sont exceptionnelles, pénètrent pour alimenter la nappe phréatique superficielle. Et donc, on pense qu'à une certaine époque, il y a peut-être des milliers d'années, ce site-là était en communication avec la mer.
La Sahara d'Imlili n'a pas fini de livrer ses splendeurs, un système écologique original et unique, où la vie maritime se côtoie harmonieusement avec le climat du désert.
On a trouvé donc ce poisson qui est caractéristique des estuaires en Afrique de l'Ouest. On a trouvé un gastéropode aussi caractéristique de l'eau de mer, en plus d'une crevette et pas mal d'autres choses. Et en plus d'une plante, Rupia maritima, qui est aussi qu'on ne trouve qu'en zone maritime. Je pense qu'il y a quelques milliers d'années, avant la désertification, cette Sahara faisait peut-être partie d'un cours d'eau qui s'est asséché et il reste juste la Sahara actuellement.
Des géologues marocains et européens visite régulièrement la Sopradim Lili.
Il y avait des géologues, des hydrogéologues, spécialistes de la détection. Il y avait des sédimentologues. On a des naturalistes, des biologistes qui sont des, donc il y a des botanistes, des zoologues cherchent à caractériser déjà la Sopra sur le plan, tous ces plans géologiques, géomorphologiques, hydrogéologiques, biologiques, pour cumuler le maximum d'informations qui va nous permettre de proposer par la suite le site pour le classement comme aire protégée. On a intégré dans notre équipe des gens de l'IRD, de l'Institut de Recherche pour le Développement, qui est à Montpellier. Entre autres, il y a notre collègue qui a participé même dans le montage du projet, M. Antoine Parizel.
C'est incroyable, mais c'est pourtant vrai. Comme quoi, les voies de la nature sont impénétrables.
Et voilà, notre promenade à travers l'actualité de Méditerranée se termine par une chanson. Elle s'appelle « Aka Mama ». C'est une chanson du patrimoine marocain, interprétée par la célèbre troupe Nas Giwan. Le jeune chanteur Faisal Azizi l'a reprise dans une version moderne.
ويكون رسامها جديد تبك الخلالة خراس كبار ونبالة وميات ريالة باش نكفي حسن ماما
Tara, l'agenda, on commence avec toi, Mayada, en Algérie.
Quatre films algériens sont en lice pour les Talons d'Or de Yenenga au 24e FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou au Burkina Faso la semaine prochaine. Deux longs métrages de fiction, un court métrage et un film documentaire ont été retenus en compétition officielle de cette manifestation. Fadma Nsoumer de Belkacem Hajej, J'ai 50 ans de Jamel Azizi, 10 949 femmes de Nassim Agassoum et Dernier recours de Marie Bena. 20 autres films africains sont en compétition.
La littérature tunisienne à l'honneur au Salon Maghreb des Livres prévu les 7 et 8 février prochains à Paris. 120 écrivains et éditeurs du Maghreb, d'Europe et du Canada seront présents parmi les figures de la littérature tunisienne, citant la présence de Faouzia Charfi et Sofia Bessis. Un hommage particulier sera rendu à des personnages historiques du Maghreb, comme Habib Bourguiba. 5 tables rondes traiteront de thèmes divers, comme par exemple Islam et démocratie en Tunisie ou École de la République et enfants issus de l'immigration.
L'écologie de l'espoir, c'est le titre d'un livre du Marocain Omar Zaidi et un plaidoyer pour l'économie verte. Réchauffement climatique, la montée du niveau de la mer, déforestation, l'ouvrage évoque l'évolution négative de l'économie qui impacte l'écosystème.
C'est toujours toi et on va en Égypte.
46e Salon international du Livre du Caire jusqu'au 12 février 2015 au Parc des Expositions internationales. Dina Abdelmajid signale l'espace français qui abrite 12 librairies francophones, des institutions de coopération et centres de recherche. Une table ronde est prévue également le 2 février sur le thème « La presse francophone en Égypte, un patrimoine menacé, un avenir à construire ». Beaucoup d'invités autour du modérateur Brahim Abdelmajid, un homme de lettres égyptien.
À Madrid, jusqu'au 2 février, se déroule la Foire internationale du tourisme de Madrid au complexe d'exposition de l'IFEMA. Il s'agit cette année de la 25e édition d'une foire qui s'est imposée peu à peu au second rang mondial. 166 pays et régions exposent leurs nouveaux produits, se rencontrent, passent des contrats. Les pays qui sont des valeurs de toujours sont présents, comme le Mexique, la France, les USA, l'Italie ou encore l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et des pays nouveaux venus, l'Albanie, l'Islande, l'Azerbaïdjan ou encore le Chili. Ben, c'est pour rêver, même si on ne voyage pas.
Et on termine avec la 18e édition du Festival du cinéma espagnol et latino-américain du 13 au 21 février à l'Espace Diamant à Ajaccio en Corse. Le meilleur de la production cinématographique en provenance d'Espagne, du Mexique, d'Argentine, et un focus sur Cuba pour ce festival devenu traditionnel à Ajaccio et créé par l'association Latinita. Un genre inhabituel, la comédie est largement représentée cette année avec 8 films, comédie caustique avec Carmina Yamen ou sentimentale avec Il Misterio de la Felicidad. Un site à visiter pour plus de renseignements, latinita.fr.
Notre émission est terminée. La semaine prochaine, Thomas sera là. Il y avait à la technique aujourd'hui ici Joël Colombani.
À la technique ici Amr Sakrani. Merci beaucoup Pierre et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine et au revoir à tous nos partenaires à travers la Méditerranée.